Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à quelques jours du nouvel an, bienvenue au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les panthères de la critique. J'ai nommé Patricia Martin des petits matins du week-end de France Inter avec le respectable Michel Crépu de la nouvelle revue française avec Frédéric Becbédé, un habitué de nos ondes qui représente le Figaro Magazine et Jean-Claude Raspienjas de La Croix. On parle ce soir, justement avant la clôture de l'an, on parle de certains livres qui ont connu beaucoup de succès pendant l'automne. C'est Sylvain Tesson, Amélie Nothomb, Siri Hustvedt, Murakami et un certain, si ça vous dit quelque chose, Marcel Proust. Dans le courrier de la semaine, Jeanine Lafargue a été heurté par la colère d'Arnaud Vivian à propos du livre d'Edna O'Brien, Girl, qui avait paru chez Vespisseur. Ce livre arrive en droite ligne de tout ce qu'a écrit O'Brien, les jeunes femmes, la religion, le poids du social sur leur liberté. J'ai lu tous ses romans traduits et le dernier confirme son talent. Anne-Marie Gauthier d'Avranches a failli tomber de son vélo elliptique à la salle de sport en écoutant le podcast de l'émission, et cela par la faute d'Arnaud Vivian. A-t-il remarqué la façon dont cette vieille dame des lettres irlandaises, Edna O'Brien, se glisse dans la peau de la jeune Nigériane enlevée par Boko Haram? Non. A-t-il apprécié sa description des paysages africains? Non. A-t-il montré un peu de compassion pour les héroïnes de ce récit? Non. Pour Camille Simonet, Arnaud Vivian, qui est absent ce soir, mais il est malade, il faut l'excuser. Arnaud Vivian n'a aucune idée de ce qui se passe dans les têtes et les cœurs des femmes africaines. Lorsqu'elles voient des femmes blanches vêtues de leur robe traditionnelle, pour elles, c'est une forme d'usurpation. Edna O'Brien s'est sentie usurpatrice d'une culture qui ne lui appartenait pas. Sinon, pour Stéphane Bordage, les critiques de Margaret Atwood à partir d'un seul livre, en l'occurrence Les Testaments, sont déplacés. Même sentiment de Stéphane Rigère, parler d'Atwood sans avoir lu La voleuse d'hommes, géniale trilogie SF. C'est comme discuter de l'art de Céline sans connaître le voyage. Et cracher sur Les Testaments sans avoir lu La servante écarlate, c'est ne pas comprendre à quel point ce nouveau roman est un rattrapage quasi journalistique d'une actualité brûlante. Cher masque, chère plume, ajoute Louise Balacre de Cherbourg. Permettez-moi de m'indigner en entendant Michel Crépu ironiser sur le statut de Margaret Atwood en tant qu'icône littéraire. S'il n'a lu qu'un seul livre d'Atwood, en l'occurrence Les Testaments, qui, je le rappelle, ont paru chez Lafon, qui est en effet décevant et inutile, comment peut-il en juger ainsi? Il faut découvrir toute l'œuvre d'Atwood que l'on ne peut pas réduire à La servante écarlate.
Toute l'œuvre?
Toute l'œuvre, oui. Tu vois ce qui te reste pour les vacances. Céline Vadou s'interroge à vous entendre éreinter la suite de La servante écarlate. J'en suis à me demander si vous n'avez pas fait un séjour prolongé à Gilead ou si tante Lydia ne serait pas une parente proche. Et lire les deux romans en version originale, Michel, permet de bien mieux saisir les qualités d'écriture.
Okay.
Sinon, Antoine Perrin de Nantes a sursauté en entendant Olivia de Lamberturie évoquer Uderzo et Goscinny, morts tous les deux. Ben non, Goscinny est effectivement mort depuis longtemps, mais Uderzo, lui, est toujours bien vivant. Et enfin, suite et fin, en l'absence toujours d'Arnaud, suite et fin du feuilleton des rillettes à la mode de Françoise Sagan. Stéphane Genet, qui habite la Touraine, nous écrit « Cher masque, Arnaud Vivian a défendu avec courage et fort justement les rillettes de Tours contre l'opinion commune attribuant leur origine au Mans. » Je vous rappelle quand même que tout ça se trouvait dans le roman de Françoise Sagan, ce qui explique ce courrier un peu gastronomique. « L'antériorité des rillettes de Tours est attestée depuis le Moyen-Âge. » Et Rabelais évoquait déjà au XVIe siècle la brune confiture de cochon. L'expression se retrouve aussi sous les plumes de Balzac, Frédéric, dans le Lys, dans la vallée, et de Proust, dans À la recherche du temps perdu. La production de rillettes de Tours a toujours été réalisée de façon artisanale. Qu'est-ce qu'il y a, Patricia?
Rien, non, parce que j'aime pas trop les
rillettes. Au 19e siècle, ajoute Stéphane Genet, des charcutiers envisagent d'industrialiser la recette, ce qui n'est pas accepté localement. Ils le mettent donc en pratique dans une ville voisine, Le Mans, avec une cuisson plus courte et l'ajout de graisse. Pour clore ce dossier, seules les rillettes de Tours ont obtenu l'IGP, indication géographique protégée. Voilà, vous êtes bien au masque et la plume, c'est bien une émission consacrée à la littérature. Et nous allons commencer avec celle qui a frôlé le prix Goncourt, mais a connu, à défaut de prix, un grand succès cet automne. Il s'agit évidemment d'Amélie Nothomb dans Soif, son 28e roman chez Albin Michel. Il paraît qu'elle en aurait écrit une centaine qui seraient dans les tiroirs, je ne sais pas si c'est vrai. Elle ne craint pas de parler de Jésus à la première personne, plus christique donc que jamais. La romancière qui travaille du chapeau raconte son calvaire, sa crucifixion et ce dont Jésus souffre peut-être le plus, qu'est la soif. Et qui avoue dans le livre de Nothomb, « Je suis comme tout le monde, j'ai peur de mourir ». Alors comme d'habitude, Amélie fait court, même pour le Messie, puisque c'est 160 pages, avec quelques maximes nothombiennes, « Ce que l'esprit ne comprend pas, le corps le saisit », où l'énigme du mal n'est rien comparé à celle de la médiocrité, c'est bien vrai, ou pour éprouver la soif, il faut être vivant, c'est vrai aussi. J'ai vécu si fort que je suis mort assoiffé. Qu'en pense notre critique de la Croix, Jean-Claude Raspienjas?
Alors, deux bonnes idées.
Il y a quoi, dans le livre?
Oui, il y a deux bonnes idées dans le livre.
En 160 pages, c'est
oui, mais
beaucoup.
Il y a deux bonnes idées dans le livre. Elle prend à la lettre le mystère de l'incarnation, elle le ramène à sa banalité, ce qui est déjà pas banal, elle s'intéresse littéralement au corps du Christ, charnel et désirant. D'ailleurs, elle qualifie que c'est un coup de génie d'avoir fait ça, et elle commence par le procès, elle banalise les actes d'accusation, elle fait défiler tous ceux qui viennent se plaindre des conséquences des miracles du Christ. Donc ça, c'est assez original. Pour ce qui concerne le Christ, elle dit qu'accomplir des miracles, au fond, il fait juste son devoir. Il a un gros problème par rapport à Judas, elle le traite très très bien. L'idée que la soif est à la source de tout, si j'ose dire, est une très bonne idée, que l'émerveillement de combler la soif est peut-être une preuve de Dieu. Jusque-là, c'est bien. La passion occupe une place centrale dans le récit.
Ah oui, pour cause.
Et voilà. Et alors, il y a Jésus qui est révolté, qui se dit, mais au fond, pourquoi moi, j'irai expier quoi que ce soit, et je vois pas en quoi mon sacrifice profite à l'humanité. Mais il est soumis, il y va, il le fait. Donc, trois modes d'accès à la vérité, la soif, l'amour, la mort, puisqu'avec Marie-Madeleine, elle dit qu'au fond, ça s'est passé, très bien. Sauf que, évidemment, c'est Amélie Nothomb, et que du coup, elle se laisse aller à des facilités. Exemple, le fait est là, c'est le cas de le dire, je vis une expérience cruciale. Ouais. Bien sûr. Il y a des faiblesses.
C'est marrant.
Oui, c'est marrant, mais oui, mais pas assez. C'est ça, l'histoire.
Donc, il y a plutôt des facilités que des faiblesses.
Oui, alors si, des faiblesses. Si,
la grande différence entre mon père et moi, c'est qu'il est amour et que moi, j'aime.
Oui. Alors, des faiblesses.
Ça, c'est pas mal, ça.
Oui, mais il y en a une autre. C'est quand Jésus dit à l'apôtre Jean, vas-y, bouffe, tu nous embêtes avec tes manières. Tu sais, faiblesse, là, c'est quand même pas. Il y a des tics d'époque, que Jésus aurait attrapé comme tout un chacun. La haine de soi. Il y a des potacheries, Jésus-Christ qui est sur la croix, qui dit « Je suis épuisé, mourir, fatigue ». C'est facilité, ça, quand même. Voilà.
J'aimerais t'y voir.
Oui, alors, ce que je voudrais dire par rapport à ce livre, c'est que c'est un livre qui a écrit sur courant alternatif. C'est-à-dire, tantôt c'est fort, tantôt c'est faible, tantôt c'est très fort, et tantôt c'est très faible, et du coup, on est un petit peu perdu.
Donc, si je te résume, tu ne lui aurais pas décerné le prix Goncourt, toi?
Écoute, ils m'ont suivi, en tout cas. Alors, c'est théologiquement intéressant, hein.
Bah oui, attends, non.
Ah bah, quand je dis que c'est théologiquement intéressant.
On va pas faire toute l'émission.
Alors, il y a quand même juste une chose. Le pompon, oui. C'est quand il est sur la croix. Jésus, on se croirait au bar d'un grand hôtel. Jésus réclame de l'eau exactement comme Frédéric Becbédé réclame un cocktail. Pareil.
Oui, parce que j'ai jamais vu Frédéric réclamer de l'eau, même sur une croix.
Pareil.
Bon, Frédéric.
Déjà, je suis très heureux que ce soit validé par la Croix, parce que comme ça, on est certain.
C'est pour ça que j'ai commencé par Jean-Claude.
C'est important.
Sûr.
C'est important.
Sûr.
Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un peu un retour de Jésus en ce moment. Il était à la fin de Sérotonine, de Houellebecq. Hein, il était sur sa croix. Il se disait, en gros, va falloir que je meure pour ces cons. C'est quand même hallucinant, mais bon, je suis obligé d'y passer. Et il y a cette thématique-là dans tout le livre d'Amélie Nothomb, qui a probablement écrit en même temps que Houellebecq, donc c'est pas du tout du plagiat, c'est juste c'est dans l'air, cette étrangeté de cette fascination, comme il y avait dans les années 60.
Tu veux dire que Jésus est tendance est devenu...
Jésus, oui, Jésus-Christ superstar, comme dans les 60s.
C'est les années 60.
Voilà. Jésus contredit John Lennon, qui disait dans
Oui, je suis plus célèbre que le Christ.
Oui. Il a perdu.
Mais ça, ça s'explique par une sorte de vide, de quête de sens. Et tout d'un coup, Amélie Nothomb, qui a quand même revisité beaucoup de contes de fées, hein, elle a réécrit Barbe Bleue, puis Riquet à la Houppe. Elle cherche toujours des histoires à remixer à sa sauce. Là, elle s'attaque au conte de fées ultime. Enfin, c'est le Nouveau Testament. Elle est intimidée, c'est vrai. On sent qu'elle est intimidée
tout en écrivant à la première personne. Hein,
oui, oui.
Mais singulier avec un grand S.
Ça, c'est pas du tout nouveau. Hein. Il y avait Sarah Mago qui avait écrit l'Évangile selon Jésus-Christ. C'était en 91. Donc, se prendre pour le Christ, ça a déjà été fait. Mais en revanche, je trouve
que c'est... Plus je te regarde, plus je trouve que tu as de plus en plus un visage christique, Frédéric.
En fait, c'est un livre sur moi.
Hein, je trouve que tu as... Non, mais c'est vrai, en plus...
Mais c'est vrai que j'ai soif.
On t'a pas proposé de jouer dans un film Jésus.
Un film un peu sadomaso, oui. non, mais pour en finir, en fait, c'est que... donc, il y a une alternance. Il a raison de potacherie et de sacré, mais que c'est ça qui m'intéresse. Et je dirais, elle arrive à faire un mélange complètement hallucinant entre la Passion du Christ de Mel Gibson et la vie de Brian des Monty Python. Et ça, je n'ai jamais lu un texte
pareil. Le grand écart.
Voilà.
Mais cela dit, moi, je trouve que pour une fois qu'elle avait un sujet, si j'ose dire...
un peu fort.
D'importance, elle aurait dû aller au-delà de ces 160 pages coutumières. Une sorte de calibrage qui me rappelle toujours un peu le calibrage des 126 pages de Que sais-je, vous savez, on n'en sort jamais. Et voilà, bon, c'est un sentiment...
Mais j'avais une dernière chose à ajouter.
Oui.
Ce serait très courageux de faire la même chose avec Mahomet. Je ne suis pas certain qu'on pourrait le faire.
Contrairement à Houellebecq. Alors, Patricia.
Bah, d'abord, c'est le livre, enfin, moi, c'est ce que je l'ai entendu dire, le livre de sa vie. C'est un livre qu'elle a envie d'écrire depuis toujours et qu'elle ne peut écrire que maintenant, avec une certaine maturité. Quand tu parlais de haine de soi, Jean-Claude, tout à l'heure, la haine de soi, c'est qu'elle y est en pétard contre lui d'une manière insensée, parce qu'il s'est laissé crucifier. Et que s'il s'était aimé un peu plus, il ne se serait pas laissé faire. C'est de ça qu'elle lui en veut terriblement. Et ça passe pas. Elle le montre très, très bien. Et puis.
Je te rappelle qu'il n'a pas le choix.
Oui, enfin, quand même, on a toujours le choix.
Libre arbitre,
absolument. Et puis, moi, je trouve absolument.
Finalement, je laisse tomber.
Encore une fois, réjouissant que ce soit les femmes qui s'emparent de ce sujet. D'abord, sur les rapports de Jésus avec les femmes.
Sexuels.
Et même autre que sexuel, je ne sais plus avec laquelle il dit à un moment donné, je ne sais plus dans quel texte, mais je sais qu'ils sont dans le salon, ils sont trois, il est en train de parler, puis il appelle à mes maris, alors je ne sais plus quel mari c'est, mais viens nous rejoindre, viens parler, c'est pas dans le livre de Nothomb, ce que je racontais.
Oui, c'est pour ça que je cherchais, j'essayais de comprendre.
Viens parler avec nous.
Ça vient d'où ça ?
C'est dans un autre bouquin qui s'appelle La Bible.
Ça vient de la Bible. Donc ça veut dire, Oust, les femmes pas dans la cuisine.
C'est Netflix.
Et les rapports de Jésus avec les femmes ont toujours été faussés, voire éludés, parce que c'est que des mecs qui s'y sont intéressés. Christine Pedotti, que tu dois connaître très bien, Jean-Claude, j'imagine, quand elle écrit « Jésus, l'homme qui préférait les femmes », elle montre que c'est un féministe, que c'est d'abord c'est un type terriblement beau, aussi beau que toi, Frédéric,
non,
terriblement séduisant. Et là, je trouve qu'elle parvient à faire quelque chose d'incroyablement romanesque. Ce qui est romanesque, c'est que c'est le monologue intérieur de Jésus. C'est ça qui, évidemment, est la propre projection de Nothomb, et notamment... Le mépris qu'il a eu le culot d'avoir pour ses contemporains, et Dieu sait s'il n'a pas croisé que de jolies personnes, ça n'a jamais été dit. Et ça n'est, on ne peut pas dire, puisqu'il est bon par excellence. Dieu est bon, son Jésus est bon, donc on ne peut pas mépriser l'autre. On pardonne à tout le monde. Et puis alors, sur son amour charnel, Marie aussi, l'amour pour sa mère, c'est absolument merveilleux. Et avec Marie-Madeleine, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on aimerait rencontrer un type comme ça ?
Eh bien,
Michel.
Eh bien, voilà. La question qu'on peut se poser, c'est effectivement pourquoi on lui a pas donné le Goncourt. C'était le seul moyen d'arrêter cette machine infernale qui donne un livre tous les ans. Et alors là, c'est rendu d'autant plus complexe que, à vrai dire, je trouve que c'est très bon.
Elle avait des partisans. Hein.
Et elle a une façon sur un thème pareil qui est quand même plus que rebattu. C'est un thème colossal. Et elle y arrive. Elle y arrive.
Et en peu de pages, justement.
Et Frédéric disait tout à l'heure, potacherie et sacré, je crois, tu disais ça. Mmh. Oui, c'est effectivement ça. J'ai en face de moi deux récifs qui sont totalement oxymoriques, enfin totalement contradictoires. La potagerie, la fantaisie, les espèces de petits trucs qui lui viennent comme ça à l'esprit. Et puis l'énormité de l'événement. Et elle arrive à y passer. Elle arrive à passer le truc. Et je trouve ça quand même assez fort finalement, assez malin et vraiment assez fort. Donc
Et le titre est génial, soif. C'est
oui,
pas boire,
ça,
soif.
Pas non plus.
Si, parce que dans la
génial. Soif.
C'est
génial.
Parce que c'est pas boire. Donc, parce que beaucoup pourront dire, ah bah oui, évidemment, elle adore le champagne, elle adore boire. Non, c'est la soif qui l'intéresse. C'est-à-dire, c'est le désir. C'est quelque chose d'extrêmement érotique, la soif.
Ah, imagine qu'elle est.
Ça, c'est sûr.
Mais oui.
Non, attention, vous allez choquer le père Raspienjas.
Non, mais imagine qu'elle ait appelé ça boire.
Ouais, ou manger. Donc, soif, c'est Amélie Nothomb qui, encore une fois, chez Albin Michel, a connu un beau succès cet automne. Oui. Voilà, elle n'a pas eu le prix, mais elle a eu un très gros succès. La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson chez Gallimard, même si c'est un récit et non un roman, bah, il a reçu le prix Renaudot, n'est-ce pas, Frédéric? Et il tient la corde à Jean-Paul Dubois, prix Goncourt. Dans les meilleures ventes, La Panthère des Neiges, espèce menacée, à peine... Michel, 5000 spécimens en vie dans le monde, a fait rêver les peintres de la Croix et Rembrandt avant de faire galoper Sylvain Tesson. En 2018, donc, l'écrivain voyageur se voit proposer par le photographe animalier Vincent Munier d'aller observer l'animal aux confins du Tibet sur le haut plateau du Shangtang où il croise des antilopes, des chèvres bleues, des yaks, des loups et enfin... à 5000 mètres d'altitude par moins 30, l'éblouissante Panthère des Neiges. Je le cite, « Elle était là et le monde s'annulait. » Ou encore, « Ce fut une apparition religieuse, on y revient. Mm-hmm. Aujourd'hui, le souvenir de cette vision revêt un caractère sacré. » Un félin qui a, pour Sylvain Tesson, le regard de sa mère disparue, Marie-Claude Tesson. Ce livre, c'est aussi de la part d'un... dromomane, j'aime beaucoup l'expression, un éloge de la patience et de l'immobilité, puisqu'il faut attendre, de manière presque minérale, avant de voir apparaître l'animal. Et c'est aussi, vous l'avez compris, une attaque en règle contre l'humanité qui saccage le monde animal. Patricia ?
Il y a plein de belles choses dans ce livre, tu en as cité quelques-unes. Ouais. Tesson, d'une manière générale, trouve que... Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas d'accord, Crépus ?
Non, je me tais.
C'est un bon écrivain, c'est un type absolument délicieux.
Je sens le mais.
Et je suis souvent éblouie par ce qu'il écrit quand il s'en va dans les forêts de Sibérie, quand il s'impose des épreuves, etc. Tout ça, c'est j'aime énormément.
Mais
son côté indomptable et sauvage, je l'aime aussi. Et d'ailleurs, la Panthère des Neiges est peut-être le pendant féminin de son côté sauvage à lui. Il y a des phrases sublimes sur le couple, par exemple, de lui et d'elle. Alors, quand elle apparaît, à un moment donné, moi, j'ai trouvé ça très, très beau. Il écrit « Si je croisais la bête, mon seul amour apparaîtrait, incorporé à la panthère, j'offrirais chacune de mes rencontres à son souvenir défait. » Je trouve ça très, très beau. Mais, il y a, selon moi, une frénésie de l'attente et de la réussite.
Une frénésie
finalement.
De l'attente.
Oui, parce que,
c'est
en fait,
érotique, alors.
Ce qui,
oui.
Non, mais ce qui compte dans ce genre de précisément d'expérience, c'est le chemin qu'on parcourt. C'est pas le but, c'est la tentative, c'est l'imaginaire, c'est le cœur qui bat en attendant. Et là, il passe, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'il y a tellement de choses qui des animaux qui passent, la nature, etc. Et je trouve qu'il aplatit du coup un peu trop ça parce que il est trop en attente de son imaginaire travaille trop. Et je vais dire quelque chose qui est horrible. Je vous préviens.
Vas-y.
Pour moi, c'est un livre de mec. C'est-à-dire que symboliquement, il conquiert.
Mais tous ces livres sont des livres de mec.
Et là, il est pas. Oui, mais fait, là, hein. Là, il ne se met pas en position de recevoir, de simplement recevoir, d'attendre et de recevoir.
Un mec, ça reçoit pas, selon toi.
Alors, on va pas en faire une question philosophique non plus. Je te dis aussi. Que dans l'attente, il est frénétique.
Okay.
Et qu'une une femme, je parlerai d'un bouquin à la fin comme conseil, qui elle regarde, elle attend les cerfs, mais elle le fait d'une toute autre manière.
Michel, tu veux en dire un mot ?
Ça me rappelle les livres que j'adorais lire quand j'étais adolescent, les livres d'exploration. Pas les histoires fantastiques, mais les récits d'exploration. Il y avait l'expédition du Kon-Tiki, par exemple, l'expédition Orénoque-Amazone de Garbrandt, qui m'ont enchanté. Et quand j'ai vu arriver ce livre de Tesson, j'avais envie de la même chose. J'avais envie d'éprouver cette émotion de lecture que j'ai jamais retrouvée depuis ces années d'adolescence. Et je ne l'ai pas retrouvée. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas retrouvée? Parce que je n'arrive pas à avoir le sentiment du vrai dans ce livre. Mmh. Tout simplement. Ok, peut-être il a vu de loin à la jumelle la panthère.
Ben ça, oui, il lui a pas caressé la queue. Hein.
Mais oui, mais...
Oh.
Mais
bah, non, mais...
Oui, oh, alors franchement...
Bah, il serait plus là.
C'est élégant.
C'était vraiment élégant.
C'était vraiment élégant.
C'était plus en plus... Hein.
Le museau.
Donc, j'en reviens à ma panthère. C'est ça qui fait problème pour moi. C'est dans le récit, je ne trouve pas... Je trouve beaucoup de belles phrases, en effet, que tu as citées. Très belles phrases, magnifiques. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le côté très concret. Comment ça se passe le matin? Il se lève à quelle heure? À 3 heures? Quel est le moment de la journée où on peut apercevoir cette foutue panthère, etc. Et là, je ne l'ai pas ça. Ce que j'ai, c'est un récit lyrique, un récit poétique qui a ses beautés en effet. Et je ne le désavoue pas du tout là-dessus. Mais c'est pas ça que je demande. Quand quelqu'un m'annonce un livre sur la panthère des neiges. Mais moi, je prends mon anorak tout de suite et je descends avec le matériel et je raconte éventuellement.
Intéressant, je voudrais t'y voir.
Je raconte au lecteur si j'ai la veine de l'explorateur qui écrit, je raconte au lecteur par le menu comment ça s'est passé avec cette panthère. Et là, je ne l'ai pas. Donc ça.
Non, c'est pas vrai.
Il y a une frustration.
C'est pas vrai. On l'a. Il y a des descriptions de la nature, de l'attente. C'est le désert des Tartares en remplaçant l'armée par un animal fauve. C'est vraiment ça. Il y a
oui,
quand même, il y est allé pour de vrai.
C'est de l'imagerie fantastique, ça. C'est pas,
non, mais
c'est
je comprends
le concret du truc.
Je comprends ce que tu dis, mais le livre que tu aurais aimé lire, moi, m'aurait ennuyé prodigieusement. Parce que je m'en fous, en fait. Moi, les reportages animaliers de Frédéric Rossif, si tu veux, je m'en fous complètement.
Quoi? Ah, j'ai adoré ça.
C'est oui, vrai, mais t'es un monstre. C'est magnifique, Frédéric
Rossif. Non, mais
Rossif.
Ce qui m'intéresse, c'est lui. C'est Sylvain Tesson, avec ce qui lui est arrivé. Puisque après les forêts,
il faut rappeler qu'il y a eu un accident et que ce voyage n'était pas évident à faire.
Voilà, en fait, après les forêts de Sibérie, qui était le même projet au fond de partir très loin.
Mais c'était magnifique les forêts de
Sibérie.
Oui,
tu remplaces par l'ours. À un moment, il croise un ours dans les forêts de Sibérie. Ben là, c'est une panthère. La différence entre les deux, c'est cet accident et puis le fait qu'il peut plus boire, parce que dans les forêts de Sibérie il buvait de la vodka du matin au soir, et là est-ce qu'il arriverait à écrire un livre sans picoler?
Et toi?
C'était le suspense. Mais je ne sais pas si j'y arriverais, moi, mais la question s'est pas posée. Et du coup ça m'intéressait de boire. Et bien sans la vodka, il arrive quand même à avoir cette gourmandise d'écriture que vous aimez tous les deux. Il y a des bonheurs d'expression tout le temps. Il y a une autodérision aussi. Il se moque tout le temps de lui-même, de cette quête, etc. C'est très drôle. Je lis juste un truc. Comme les monitrices tyroliennes, la panthère des neiges fait l'amour dans des paysages blancs. Il y a tout le temps des petites...
J'avais oublié.
T'avais oublié quoi, les monitrices tyroliennes?
Et d'ailleurs aussi des phrases à la Nothomb. L'homme est la gueule de bois de Dieu. C'est quelqu'un qui sait écrire, qui s'amuse, qui se fait plaisir en écrivant. C'est un livre sur l'attente, oui, mais comme le rivage des Sirtes aussi, c'est suspendu tout le temps. Il y a du suspense avec ce vide de la montagne.
Admettons.
Et enfin, moi, je trouve une émotion quand on connaît son accident et aussi le vrai sujet du livre, qui est le deuil de sa mère et aussi une amoureuse qui l'a quitté.
D'où le regard de cette panthère.
Et c'est
l'émeut particulièrement.
Il en parle vraiment de façon très pudique. Donc moi, je trouve quand même que c'est un grand livre.
Jean-Claude, est-ce que tu as cavalé derrière Tesson dans le...
Je trouve que c'est un des plus beaux livres de cette rentrée. Enfin, c'est un livre d'une profondeur, d'une beauté, d'un style. Il fait un livre sur l'affût. Voilà. Qu'est-ce que c'est que d'être immobile, d'être dans la fusion avec le monde? Il a carrément rendez-vous avec l'origine du monde, là, quand il est là-bas. Tu parlais d'une quête un peu religieuse. Elle est manifeste. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il l'aperçoit, la panthère, il décrit cette très belle phrase. Il dit, c'est le plus beau jour de ma vie depuis que j'étais mort.
Ouais, ouais.
La figure de la mère qui hante le récit, il est tellement proche de ce souvenir qu'il envahit à chaque fois qu'il espère voir la panthère, que c'est proche d'une certaine idée de la réincarnation. Relisez ce qu'il a dit sur sa mère. Vraiment, il s'approche de ça.
Moi,
il s'approche
vraiment
de ça. Il y a un rapport de fusion avec la nature. Il y a un dépouillement de lui-même, tout en étant, en effet, auto-ironique. Il ironise beaucoup sur sa tendance à bavarder, à faire des phrases, à sortir des aphorismes. N'empêche que on est vraiment dans la pulsation de la vie. On est aussi dans l'aspect le plus primitif de la fureur de vivre chez ces animaux-là. C'est-à-dire que l'admiration qu'il a pour ces animaux qui ont survécu à des conditions extrêmes est très, très beau.
C'est l'éloge. Son alter ego, d'une
oui, mais manière. l'éloge qui fait de cette origine de la vie, de ces animaux qui ont survécu, et que eux, les humains, viennent là essayer d'observer, vont repartir. Je trouve que c'est un livre de bout en bout qui est absolument admirable, magnifique, qui te hante. Enfin, et puis il y a un style, quoi. Et on peut ironiser sur ces aphorismes, n'empêche que c'est très très beau, très fort, très puissant.
J'ai pas dit le contraire de ça. Je dis simplement que c'est
t'as une chipoté. Question
d'atmosphère. Non, j'ai pas chipoté.
Non, elle dit qu'elle a voulu caresser la queue de.
Et puis attendez, puis c'est un livre anti-moderne, c'est-à-dire que il y a ce désir, il y a ce désir de se rendre invisible, il y a ce désir d'immobilité, il y a ce désir d'observation.
Justement, je ne le trouve pas invisible, moi.
Sur l'affût, relie Genevoix.
Non, mais elle dit une chose tout à fait juste, Patricia. On sent que c'est un livre de mec. Là-dessus, elle n'a pas.
C'est un livre de conquérant.
Voilà. Et en quoi on va lui reprocher ça?
C'est pas un défaut.
Oui. En quoi on va lui reprocher ça?
Ça m'a gêné, moi, dans ce
En tout cas, l'affût est un des thèmes de cette rentrée, puisque tu as parlé de Claudie, ou tu vas en parler, de Claudie Hitzinger, mais ça fait deux romans qui parlent de l'affût. Qu'est-ce que c'est que de.
Bon, enfin, c'est pas une tendance quand il y a 600 romans, c'est pas parce qu'il y a deux romans qui parlent de l'attente.
Je retire le mot tendance, en tout cas, il y a deux très beaux livres qui parlent de l'affût.
La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, et c'est chez Gallimard. Un livre où il n'y a aucun affût. Profession romancier. Traduit du japonais par Hélène Morita chez Belfoncé. Un livre signé Haruki Murakami, 70 ans. L'auteur, toujours d'ailleurs, je vous le rappelle, nobilisable, hein, tous les ans. Il revient dans la shortlist. Toujours nobilisable de Kafka sur le rivage, de la balade de l'impossible, du meurtre du commandeur. Explique en 12 chapitres les raisons qui ont fait de lui un romancier de profession. Alors, à l'en croire, écrire un roman, c'est pas très difficile. Écrire un roman magnifique n'est pas non plus si difficile. Je ne prétends pas que c'est simple, mais ce n'est pas non plus impossible. Ce qui est particulièrement ardu, en revanche, c'est d'écrire des romans encore et encore. Tout le monde n'en est pas capable. Dans ce livre, donc, l'ex-barman et traducteur de Raymond Carver revient sur son parcours et ses 35 ans d'écriture ininterrompue. Il donne le chiffre 10 pages par jour, 300 pages par mois. C'est pas mal comme.
C'est plus fort qu'Amélie Nothomb. Hein.
Ah oui.
C'est un peu comme Jean-Paul Dubois.
Il parle. Ah non, pas du tout, parce que lui, Dubois,
c'est en un mois.
C'est que pendant un mois.
8 pages par jour pendant un mois.
Il parle de l'inspiration, de son rythme de vie très spartiate, beaucoup plus que Beck BD, de l'intérêt de l'aérobic.
Mais tu dois pas beaucoup rigoler avec lui, hein. Il est quand même un peu casse-pied. Non,
très. Et de son désintérêt total pour les prix littéraires. Alors, je sais pas s'il le dit.
Oui, parce qu'il n'a pas eu le Nobel. J'ai jamais vu quelqu'un faire ce genre de prétention sans être contredit aussitôt, 5 minutes plus tard, par son propre comportement.
En tout cas, voilà. Et voilà.
Oui, mais il n'est pas français. Non, il est pas
pour européen. Quelqu'un qui s'en fout des prix littéraires, il parle beaucoup du prix Nobel. Hein.
Oui, c'est absolument. Qui n'aura jamais.
Jean-Claude
c'est parce qu'il est sur la liste tout le temps, donc il n'aura jamais. C'est comme le Goncourt, ça c'est pareil. Quand tu es tout le temps sur la liste du Goncourt, tu n'as pas le Goncourt.
Sauf qu'il n'y a pas de liste pour le Nobel, c'est toujours une rumeur.
Des prévisions.
C'est une rumeur, c'est pas des listes. Hein,
c'est vrai. Rappelez-vous le sort de Michel Tournier, qui était tout le temps sur la liste.
Oui, qu'il a. Mais, et puis lui, il a vraiment attendu. Hein,
Il a fini par entrer au jury.
Il était dans une forme d'affût. Il attendait le.
Mais c'était pas la Panthère des Neiges. Hein.
Il ne bougeait pas de chez lui.
Voilà, il se fondait.
Dans son presbytère de Choisel.
Il attendait.
Qu'arrive le Nobel.
On parle du Murakami, là, c'est ça
Oui, d'un livre qui s'appelle Profession romancier.
Ouais, c'est ça, oui, oui.
On a beau être le 29 décembre, il faut quand même faire semblant de suivre.
Mais je suis absolument. C'est un livre laborieux qui est pas vraiment passionnant et qui est un peu rasoir. L'éditeur nous le présente comme un essai à la fois drôle, intelligent et passionnant. Alors en fait, c'est rien de tout ça. C'est intelligent un petit peu. En tout cas, c'est absolument pas drôle et absolument passionnant. C'est vraiment rasoir. Il y a deux chapitres relativement intéressants. C'est le chapitre 6 et le chapitre 7. Le chapitre 6, c'est celui où il dit qu'il fait ses 10 pages par jour et tout ça. C'est assez intéressant, enfin, sur la technique, la méthode, enfin bon, voilà.
On croirait une réponse à une interview pour un journal.
Hein. Non, mais alors tout le livre ressemble à ça, c'est-à-dire on a l'impression que c'est des interviews qui ont été rassemblées, scotchées.
C'est ça.
Non, c'est des textes qu'il a écrits.
C'est des textes qui sont mis bout à bout.
Mais c'est pas des interviews.
Ah non, c'est pas des interviews.
Je crois que c'était des discours de réception du Nobel qu'il a pas eu.
Oui.
Il avait préparé les discours de remerciement.
Non, et en plus, il y avait quelque chose qui m'a vraiment beaucoup gêné tout le long du livre, c'est très mal écrit, quoi. Alors, c'est peut-être un problème de traduction, ça, j'en sais rien, mais en tout cas.
Ah, parce que tu l'as pas lu en japonais, tu l'as lu en français.
Et, il fallait qu'on vienne vite ici. Alors, non, il y a quelque chose qui est assez marrant dans le chapitre 6, toujours, c'est ses réactions très ombrageuses, parce qu'il fait lire tout le temps ses livres à sa femme. Et quand sa femme lui fait la moindre critique ou observation, alors il le prend très très mal à chaque fois. Et ce qui est assez joli, c'est qu'il dit « je rentre dans une fureur terrible, je supporte pas et tout ». Puis je laisse passer quelque temps et je me dis qu'en effet, peut-être, elle a un peu raison. Et c'est systématique. C'est toujours comme ça. Donc voilà, c'est plutôt marrant. Alors il y a un truc qui a dû... Ah ben tu bailles. Il y avait un truc qui a dû te...
Qu'est-ce que j'ai fait encore ?
Non, t'étais en train de bailler là. Et alors...
Je baille pas, excuse-moi. Oh.
Elle a baillé comme la panthère des neiges.
Il y a quelque chose qui a dû te toucher, mais tu vas sûrement être enragé. C'est qu'on découvre que dans les librairies japonaises, les livres des femmes ne sont pas mélangés aux livres des hommes.
Mais c'est une bonne chose.
Ah bon? Bon, je te dis là, c'est moi, Camille, c'est bon.
Est-ce que tu as appris des choses sur l'art du romancier,
sur la critique littéraire, oui. Sur la critique littéraire.
Frédéric.
Il dit que les critiques littéraires sont trop intelligents pour comprendre les romans. Et je crois que c'est vrai des siens.
Mais c'est dit avec beaucoup d'humour, ça, pour le coup. À mon avis, c'est pas très sérieux.
Ouais, mais moi, je crois que c'est pas une raison pour prendre les lecteurs pour des demeurés. Il a un talent fou, Murakami, pour énoncer des banalités avec beaucoup de candeur. T'as l'impression que tu lis un blogueur qui serait nobélisable. C'est des truismes très démagogiques. Il passe son temps à répéter que tout le monde pourrait être romancier. Mais juste après, il se vante en disant qu'il vend beaucoup d'exemplaires depuis 30 ans.
Ce qui est vrai, d'ailleurs.
C'est parti de ces gens qui ont la modestie très prétentieuse, quoi. Et je suis tout d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Claude. Il y a juste un moment où je me suis dit, tiens, c'est pas mal ça. Il dit, écrire un roman, c'est comme fabriquer un bateau dans une bouteille. C'est un travail de maniaque, ennuyeux, difficile et long et inutile. Et ça, j'ai trouvé ça juste, mais je préfère ce qu'a dit Modiano, qui lui a eu le Nobel.
Qui avait fait un très beau discours.
Oui, et bien justement, très, très beau discours. Lui, il disait que...
Qui a été publié, d'ailleurs.
Voilà, il disait, c'est comme conduire une voiture la nuit, en hiver, et rouler sur du verglas, sans aucune visibilité. Voilà, on voit pour la différence entre ceux qui ont le prix et ceux qui n'ont pas.
Patricia ?
Je suis pas du tout d'accord, parce que c'est du Murakami, c'est-à-dire, alors, je suis pas d'accord avec toi, Jean-Claude. Moi, j'ai trouvé ça léger, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça très épuré, et cette candeur dont vous parlez, c'est pas du tout l'histoire de, le fait de prendre le lecteur pour un imbécile, c'est une candeur, enfantine. Il y a quelque chose de très épuré chez lui. C'est presque de l'ordre du sacré, enfin, il y a quelque chose de...
Ah, bah, décidément, on y revient, c'est la soirée.
Il enfonce le clou à chaque fois. C'est pas la première fois qu'il le dit. C'est un homme ordinaire qui a une vie ordinaire, une réflexion ordinaire. Je trouve qu'il a une puissance évocatrice dans ses mots, dans ses phrases, un charme. Quand il dit de lui-même, moi je trouve ça très drôle quand il dit qu'il roule à vitesse réduite, qu'il a une activité de pâteau, qu'il n'est pas très émotif et que ça n'a pas été un très bon élève. Et puis tout à coup...
Ah oui, c'est vrai que c'est proche du sacré.
Il y a des étincelles, il y a une révélation, ce qu'il appelle une épiphanie, on en revient à la religion, dans un stade, je ne raconterai pas comment, mais où là...
Il a raconté ça. Il a raconté mille fois, c'est archi connu cette histoire.
Et parler de la créativité, de l'originalité, du fait de monter sur le ring, mais surtout de pouvoir y rester, parce que c'est ça, de savoir écrire, moi je trouve ça formidable. Quand il parle de Joyce, les rapports entre la mémoire et l'imagination, quand il parle du pouvoir de dire « je », parce que il n'est pas occidental, c'est un japonais, et pour un japonais, dire « je », ce n'est peut-être pas la même chose. Et je trouve qu'il fait une démonstration de ce que c'est que le génie, qui est formidable, et puis il raconte deux histoires, je suis désolée, je vous les raconte vite fait, parce que je les trouve trop drôles, c'est Proust et Joyce, en 1922, qu'on a invités à un même dîner, on les a mis côte à côte, en disant, ils vont se raconter des histoires de romanciers absolument extraordinaires, et aucun d'eux ne parle, ils sont muets du début à la fin du dîner. Et une autre, c'est une rencontre entre Paul Valéry et Einstein. Et Valéry demande à Einstein, vous avez toujours un petit carnet sur vous pour prendre des notes. Et Einstein dit, bon non, j'en ai pas besoin, j'ai jamais d'idée. Non, vous n'avez rien compris si ça vous a cassé les pieds, franchement.
J'en profite, puisque tu parles très élogieusement de Murakami, qu'on réédite trois livres de lui en même temps que paraît Poésie romancier. C'est La fin des temps, La course au mouton sauvage, où il y a beaucoup d'affûts, parce qu'on attend le mouton sauvage quand même.
Le mouton sauvage, c'est quand même pas la même chose que la
panthère. Et puis danse.
Danse, c'est magnifique.
Voilà. Alors, Michel.
C'est le Welbeck nippon.
Quoi ?
Ben oui. Ben oui, c'est l'écrivain qui, comme le fait Welbeck ici, est capable de donner une sensation de l'ordinaire, tout en donnant à l'ordinaire, à la vie ordinaire, dans sa réalité un peu morne, un peu comme ça, rien, enfin de néant, il l'a fait exister.
Oui, mais sans aucun humour, contrairement à Houellebecq.
Mais c'est désolé, pas vrai, Camille, il a
jamais
drôle.
Non, mais...
Il a de l'humour, Murakami.
Oui, je suis d'accord avec toi, effectivement, il n'y a pas tellement d'humour dans tout ça.
Si, il y a de l'humour.
Je suis un peu éloigné au fur et à mesure de ma lecture, mais parce que...
Tu l'as lu il y a longtemps.
mais voilà, donc je ne sais pas trop finalement ce que je pense de Murakami.
Tu sais pas si
en
ni,
réalité.
Tu ne sais pas si ni pour ni mauvais, quoi. En fait, oui. Tu es très partagé.
Ça a la douceur des eaux thermales, ce livre.
Mais le style.
Il n'y en a pas.
Michel, le style.
Comment ça, il n'y en a pas, le style.
Mais non, il n'y en a pas.
Mais il y a un style à lui. C'est comme si
le
disque du rap.
Je te donne le numéro de téléphone de Paul Léoto et tu vois ce que c'est que le style. C'est quelqu'un qui s'en fiche de se poser la question du style et qui raconte les choses telles qu'elles sont. Voilà.
Mais bien sûr que non.
Et il n'y a pas.
Mais Michel, enfin, bien sûr que non.
Mais bien sûr que si. Et Saint-Simon, c'est la même chose. Saint-Simon, Léoto, même combat. Ce sont ceux qui s'en foutent complètement de savoir comment on écrit.
Mais ça n'arrive jamais, ça, Michel. Mais quelqu'un qui écrit ne se fout jamais complètement du style. Enfin, c'est de la blague, là. Qu'est-ce que tu nous racontes?
Ce débat est passionnant.
C'est seulement là que commence la littérature.
Michel, reviens-toi, là. Michel, Michel.
Ouais. Saint-Simon et Léoto, d'accord, mais ne mélange pas avec Murakami, s'il te plaît.
Je sais très bien ce que je dis.
Profession romancier, c'est donc, Murakami, et c'est chez Belfond, Souvenir de l'avenir, traduit par Christine Leboeuf chez Actes Sud. C'est le roman autobiographique de l'américaine Siri Husvedt, par ailleurs femme de Paul Auster. Tout commence en 1978, quand, venue de son Minnesota natal, la jeune femme de 23 ans s'installe à New York pour écrire son premier roman et qu'elle est perturbée, il faut la comprendre, par une voisine très inquiétante, Lucie, dont elle se met à transcrire les monologues où il est question du meurtre de sa fille et du besoin de la venger, jusqu'à une nuit de violence où Lucie pénètre dans son appartement, scène que Michel ne va pas raconter, je sais. 40 ans plus tard, Siri Husvedt raconte dans son journal qu'elle a d'ailleurs tenu en 78 une manière pour elle d'entamer ses souvenirs de l'avenir pour révéler quelques moments forts et terribles de sa vie, dont celui où elle a été victime d'une agression sexuelle. Donc dans ce livre, elle rassemble beaucoup de ses thèmes de prédilection, dont une fois de plus la brutalité du patriarcat et la capacité de l'imaginaire à recréer le présent. Pas trace en revanche de sacré, pas non plus tellement d'affût. Michel, tu as pu le regarder, ce livre, ou...
Oui, je l'ai regardé. J'ai eu le sentiment qu'elle était toujours aussi ennuyeuse que son mari. Donc ça m'a laissé dans des dispositions assez perplexes quand même, tu vois.
Tu l'as lu il y a longtemps.
Et tout ça remonte maintenant à bien 15 jours, hein, 15 jours, 3 semaines.
Oui, donc, et le temps passe, surtout à l'approche du nouvel an. Patricia.
Sur le patriarcat, tout ce qu'elle dit, c'est assez théorique, mais
c'est tout dire.
Tout ce qu'elle raconte, d'ailleurs, le viol, enfin, est en pile poil en plein milieu du livre, tout ce qui est lié à cette menace de castration, dont elle explique bien que c'est pas seulement les hommes que ça touche, mais aussi les femmes, et que c'est lié à une forme de combat et une forme d'exercice d'autorité. Moi, j'avais très peur, très honnêtement, en commençant ce livre, parce que elle, je la trouve, c'est quand même une grande intello, elle enseigne la psychiatrie et les neurosciences à la fac, elle a lu Freud à 15 ans, elle a un côté surdoué qui veut tout expliquer toujours, et c'est peut-être pas comme ça qu'on fait les meilleurs romans. Et là, je trouve que comme la dernière phrase de son livre, c'est...
Mais c'est pas vraiment un roman, hein, c'est un roman...
Non, mais une histoire est devenue une autre, c'est-à-dire qu'elle a tellement pataugé dans sa première version, qui ne marchait pas, ça collait pas, etc.
Elle a voulu faire la psychanalyse de son roman.
Eh bien, elle a dépassé ce stade-là et elle est arrivée, effectivement, à écrire un très beau roman. Son personnage de Lucie est formidable, sur le fait de la multiplicité de chaque être qu'il y a en nous, et ça devient une sorte de comédie, y a un recul suffisant pour être théâtral, et très honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de plaisir à le lire et qu'on sent qu'elle a pris du plaisir à l'écrire.
Tu es sûr, vraiment?
C'est pas si sûr.
C'est pas si sûr,
moi, je pense que si.
C'est pas si sûr parce
c'est
que
pas joué, cette affaire.
C'est assez, oui. On est d'abord séduit, c'est vrai, par la beauté du texte, la grâce des premières pages, l'arrivée à New York.
Et puis l'idée qui est bonne de reprendre ce journal de l'époque.
Oui.
Pour le retraiter aujourd'hui.
La nostalgie des évocations, la poésie des bruits de la ville.
Le moi antérieur.
La finesse des descriptions.
Mais.
Pas tout à fait. C'est vrai que la recherche magnifique et mélancolique de cette fille de 23 ans qui arrive là, dans cette ville de tous les possibles, ça c'est très très bien. C'est réellement passionnant. Il y a des moments forts. Il y a une vraie réflexion sur l'essence des souvenirs, c'est-à-dire est-ce qu'on les a vécus, est-ce qu'on les a récomposés, est-ce qu'on les a imaginés, est-ce qu'on les a inventés. Mais par moments, c'est assez confus. C'est trop long. Le roman dans le roman brouille les pistes vraiment, et il ajoute rien au fond, vraiment. Alors il y a deux ou trois moments après qui surnagent, si tu veux. Il y a la réflexion sur le visage, comme chez Nothomb, qui est très très bien.
Et comme chez Lévy, enfin,
la nausée que suscite aujourd'hui Donald Trump.
Elle devrait faire une clé d'Amélie Nothomb, en fait.
Ce qui est compliqué, c'est comment parler de ce livre quand on est un homme. Je reviens à ce que disait Patricia tout à l'heure. Parce que si je dis que je me suis emmerdé, je suis un salaud misogyne.
Mais tu es un salaud misogyne.
Bien sûr.
Mais on t'aime quand même.
Non, en fait,
C'est ce qui fait ton charme.
Non, c'est qu'en fait, je me suis emmerdé, c'est tout. C'est juste que je me suis emmerdé. Ça fait pas de moi un phallocrate. Mais alors, c'est un fouillis. Y a le journal intime, le roman raté qu'elle recycle, des dessins. On s'y perd, elle aussi. Mais, alors là, pour le coup, il y a un énorme mais. Ce sont ces pages de 169 à 182, où elle raconte une agression sexuelle. Et je n'ai jamais lu, vraiment, je vous le dis en pesant mes mots, je n'ai jamais lu un récit aussi saisissant de ce qui arrive à une femme quand elle est avec un type qui est séduisant au début. En plus, il s'appelle Jeff, donc c'est peut-être Jeffrey Epstein. Il travaille dans la finance. Je me suis demandé, c'est peut-être un scoop. Enfin, il s'appelle Jeff. Et elle le trouve sympa. Elle va à une soirée. Elle est dans un cocktail. Elle va à une soirée avec lui chez des gens. Là, ça commence à déraper. Mais elle est tétanisée. Et nous aussi. Et là, on comprend. C'est presque comme une victime d'attentat terroriste. C'est-à-dire qu'elle, le temps se détraque et elle ne sait pas comment réagir. Elle se retrouve quand même chez elle. Il la suit jusqu'à chez elle. Elle est dans son appartement. Il monte sur son corps, il l'écrase par terre et elle est sauvée par les voisins. Je suis désolé de raconter tout.
Oui, mais t'es en train de tout raconter.
Non, mais en fait, je suis obligé parce que c'est...
Mais c'est la scène la plus importante du livre.
C'est la scène centrale du livre et c'est tout le reste, finalement, conduit à ça et ensuite analyse ça. C'est ce qui fait que le livre, à mon avis, est très important. Parce que je n'ai jamais lu des pages aussi fortes et j'ai enfin compris, en fait, j'ai compris, finalement, ce qui se passe dans cette zone grise dont on parle tout le temps, elle la raconte mieux que personne.
Gardons une poignée de minutes.
Ce que tu dis est très convaincant.
Pour Monsieur Proust, s'il vous plaît. Non, sinon... Souvenir de l'avenir, c'est donc chez Actes Sud et c'est signé Siri Husvet. Donc oui, on termine vite, malheureusement, avec ces inédits de Marcel Proust, Le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites, publiées chez Fallois. Recueil de 9 textes rédigés dans les années 1890 par le jeune Proust, il a 20 ans, au moment où il écrit et prépare son premier livre, Les plaisirs et les jours, 9 nouvelles jugées alors trop audacieuses pour être publiées, qui évoquent la prise de conscience de son homosexualité sur le mode de la malédiction, dans une atmosphère de morale très chrétienne, et sous des formes diverses, contes de fées, récits fantastiques, dialogues des morts. C'est à l'éditeur Bernard de Fallois, disparu en janvier dernier et auteur de Proust avant Proust, qu'on doit cette exhumation. Et c'est Luc Fraisse, prof à l'Université de Strasbourg, qui présente aujourd'hui ce livre très mélancolique. Malheureusement, vous me dites très vite si il faut trouver des vertus particulières à ce recueil de nouvelles inédites. Michel.
Tout Proust est là tout de suite, déjà, à 20 ans. Il est là, c'est incroyable. Ces textes sont des pierres précieuses. Il raconte au début, je raconte ça, c'est la visite à une dame qui est très malade, qui va mourir, et il passe l'après-midi, le narrateur vient passer l'après-midi avec cette femme, et ils discutent, et elle lui dit à un moment, ce qui serait bien, ce serait que vous alliez prendre des places pour le spectacle, ce qui se joue en ce moment. Et ce « en ce moment » est merveilleux, parce qu'on entend l'écho de la ville, le temps. C'est vraiment l'écrivain du temps, Proust, c'est incroyable, de l'instant, du temps. Et ce dialogue, je ne suis pas allé plus loin dans ma lecture du livre, parce que j'étais saisi par cette scène qui est un quoi ?
Tu dis que ce sont des pierres précieuses que tu n'as pas lues, en fait.
Mais non, mais on voit bien que la teneur de ce texte, il est là tout de suite déjà. C'est incroyable. Oui, en effet.
Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord sur. Notamment, il y a une phrase que j'ai notée.
Frédéric.
Il y a une phrase. Il y a si longtemps que je vous aime que je ne puis ni vous le dire ni ne pas vous le dire.
Mmh. Oui.
Et ce qui me fait penser à la chanson de U2, With or Without You, I Can't Live. Et donc, c'était pour le plaisir de rapprocher Marcel
J'aime
Proust et Bono.
J'aime bien Proust et U2. Oui, voilà. Oui, c'est bien, c'est bien.
En enlevant l'introduction, la postface et les notes de présentation, ça fait 56 pages.
C'est très, très court. Oui, voilà. Très, très court.
Donc, bon.
Mais on pourrait les enlever et les lire seuls. On n'a pas besoin de tout ça. Je suis désolée parce que ça c'est d'un lourdin. Quand précisément, il y a cette grâce et ces fulgurances de Proust, mais cependant usé avant d'avoir servi, ton corps ne résistera pas au contre-coup des élans et des choses de ton cœur. Ou quand il raconte qu'il va au Louvre et qu'il voit Chardin, Van Dyck et Rembrandt, qui m'ont rendu tous trois un service merveilleux et différent, on se dit que c'est suffisant. Pourquoi tous ces commentaires pour dire que c'est pas la psychologie homosexuelle qui constitue l'unique enjeu de ces nouvelles?
C'est un peu la barbe.
Proust n'est réductible à rien. Donc lisez
uniquement. C'est aussi
uniquement
pour faire un livre. Hein,
à ce moment-là, je ne sais pas.
Jean-Claude.
Alors moi, je vais jouer le rabat-joie. Je trouve que ça n'apporte strictement rien. Enfin, je trouve ça pas du tout intéressant. En revanche, il y a un double intérêt. Enfin, moi, j'ai été intéressé par deux choses. C'est de savoir pourquoi de Fallois a gardé par devers lui ces textes et pourquoi il a voulu qu'ils soient portés à notre connaissance après la mort de Fallois. Et en revanche, je suis totalement en désaccord avec Patricia. C'est le travail de Luc Fraisse, c'est tout à fait éclairant. Moi, je l'ai trouvé. C'est ce qui m'a le plus passionné là-dedans. C'est ce qu'il expliquait. Le reste, il est là à 20 ans. Vu ce qu'on connaît de Proust et ce qu'on a lu de Proust, c'est très ennuyeux par rapport à ce que ça va être. On va pas s'émerveiller parce qu'il sait faire des rédactions à l'école primaire. Arrêtez, je veux dire, il y a
une œuvre.
Il y a une œuvre extraordinaire. Là, c'est petit par rapport à ce qu'on sait, par rapport au continent Proust. Il n'y a pas de quoi s'extasier.
Évidemment qu'on n'a pas la recherche du temps perdu tout de suite. Mais on a déjà un peu l'ADN, c'est extraordinaire.
Le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites, c'est publié chez Fallois et c'est donc de Marcel Proust. Allez, on a le temps de conseiller un livre à nos auditeurs et éventuellement même à offrir pour le nouvel an. On va commencer par notre cher Michel, un livre que tu as lu jusqu'au bout.
Oui, absolument.
Je vois que celui-là a l'air très fin.
Il est court.
Oui, et je suis tout joyeux de vous annoncer ça.
Tu as l'air joyeux.
Oui, tout à fait. Et il s'agit.
C'est quoi alors?
Ce sont des pages d'un des plus grands écrivains italiens de l'entre-deux-guerres, Umberto Saba. J'espère que quand même le nom de Saba dit quelque chose.
Oh, bien sûr.
Bon.
Les noces de Saba, les.
c'est ce que je craignais.
Et donc, je roule en sabbat.
Ce sont des pages un peu autobiographiques. Le livre s'appelle « Comme un vieillard qui rêve ». J'ai du mal à lire parce que je n'ai pas mes lunettes.
Oui, non, mais je sais bien. Tu l'as lu il y a longtemps.
je l'ai lu en venant ici.
Dans le
taxi. Parce que j'avais du temps. Et ce sont des souvenirs. Il était né à Trieste, il faut savoir, Umberto Saba. Et il a parlé de...
Ça change tout.
Il infuse, c'est incroyable, on a une sensation italienne de les rues de Trieste, etc. C'est très très beau, c'est formidable.
Alors est-ce qu'il y a un éditeur pour ce livre?
Oui, alors simplement, évidemment, il faut...
Patricia, tu pourrais l'aider?
Attends,
c'est je sais pas, j'arrive pas à lire.
Le bruit du temps,
L'éditeur, le bruit du temps, c'est...
Et donc c'est un tout petit livre. C'est quoi le titre?
Comme un vieillard qui rêve.
Très bien. Merci,
ça vous
Michel.
Vous embouchez un coin. Hein.
Merci. Patricia.
Non, mais je ne plaisante pas.
Patricia.
Les grands cerfs de Cody Hunsinger. C'est publié chez Grasset. Ça se passe dans les Vosges, dans un coin totalement paumé. Elle passe des heures et des heures et des heures et des heures de planque avec un ami photographe pour voir passer des cerfs. Elle les dessine. Elle n'ose même pas les photographier. Et là, c'est une approche extrêmement féminine, c'est-à-dire il y a une fausse passivité, une passivité ardente dans son attente de et cette contemplation qui devient finalement obsessionnelle. C'est un livre magnifique, jubilatoire et rédempteur.
Et je reste dans la thématique des bêtes avec un livre que j'ai adoré qui est Colette et les bêtes de Gérard Bonnal chez Taillandier, avec de très belles photos, un bestiaire. Il n'y a pas de panthère des neiges, mais il y a des chats, il y a des crabes au dos de velours, comme disait Colette, des écureuils brésiliens, des girafes, des hirondelles, l'occasion de rappeler que l'auteur de Dialogue de bêtes, que j'adore, a soutenu avant l'heure la cause animale, elle a annoncé l'antispécisme, elle dénonçait les abattoirs, elle condamnait, et ça je la comprends, la maltraitance des chevaux de trait dans Paris, et elle prévenait sèchement l'humanité. N'échapperons-nous pas, à force de crime, à la confiance des bêtes? C'est Colette et les bêtes, c'est Gérard Bonnal, et c'est chez Taillandier.
Oui, et on peut en profiter pour signaler que la revue L'Atelier du Roman consacre un numéro spécial à Colette.
Et il y a un très bon livre aussi de Frédéric Magel, Les 7 vies de Colette, qui paraît chez Flammarion.
Alors moi, c'est le journal d'un basque espagnol de Bilbao, qui s'appelle Iñaki Uriarte, et le titre c'est « Bailler devant Dieu », c'est chez Séguier. Et c'est vraiment très, très brillant. C'est un flâneur nonchalant, cultivé, drôle, oisif. Il y a une phrase qui plaira à Patricia. « J'ai toujours pensé que le bâillement était le symptôme d'une sérénité spirituelle. »
C'est vrai.
Bien sûr, puisqu'on est dans le sacré. Hein. Et c'est préfacé par Frédéric Schifter. C'est lui qui m'a dit de le lire. Et donc, je l'en remercie.
Grand, grand écrivain biarrot.
Oui, et qui publie un excellent roman en janvier.
Un roman en janvier, oui. Mmh. Jean-Claude.
Alors, un livre tout à fait idoine pour la saison, qui est Histoire de la pluie en 40 épisodes.
J'adore, de Jean-Louis Hue.
Jean-Louis Hue.
Formidable.
Voilà. Qui est une merveille, c'est un bijou, ce livre. 300 pages.
C'est une idée qu'on trouve dans le livre de Valérie Larbeau.
Oh, ça va maintenant. Tu nous fous la paix, Michel.
Je suis désolé. Alors, donc, Barnabous, le personnage.
Sauf que Valérie Larbeau ne parle pas de François Hollande.
Voilà, c'est ça.
Était un président donc, trempé.
Alors, imaginez, comme Jean-Louis Hue. Imaginez le pari quand même. 300 pages sur la pluie. Et il y a tout, c'est-à-dire
les pluies.
Les pluies, oui. Mais c'est littéraire, c'est poétique, c'est scientifique, c'est
pictural.
Pictural, absolument. Et Caillebotte, Monet, scientifique. Léonard de Vinci était un grand spécialiste et un grand décortiqueur de pluies. Il y a évidemment des pages sur le déluge. Il y a les prières pour faire venir les pluies, les processus après la pluie. Il y a l'histoire du parapluie et les inventeurs de l'imperméable, le Macintosh et la gabardine.
Il y a... Et le Barbour.
Et le, bien sûr. Alors en revanche, il est un peu sec, si je peux me permettre, sur la pèlerine de la maréchaussée. Il l'a un petit peu laissé de côté. C'est un livre formidable. C'est une merveille. C'est magnifiquement écrit.
Et il faut rappeler que Jean-Louis Hue, qui est l'ancien patron du magazine littéraire, est d'origine normande.
Alors, précisément. Alors, il dit, précisément, il explique que les paysans normands ont un lexique sur la pluie qui rivalise avec celui des Japonais.
On termine avec donc ce livre et tous ses conseils, c'est chez Grasse, ça va peut-être le rappeler.
Oui, pardon. Oui.
Tous ses conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup. Patricia Martin, Michel Crépu, Frédéric Becbédé, ainsi que Jean-Claude Raspienjas pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance Française. Et je les remercie. Il y avait Yvan Charby, Valentin Azan, Zielinski, Philippe Thibault. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu le jeudi 16 janvier au théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée à la littérature et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films. À tous, déjà un petit peu en avance, une bonne année et à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.